Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy dans l'Essonne, vice-président du conseil régional d'Île-de-France, chargé de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, nous allons parler d'abord de la réforme des retraites. J'aimerais avoir votre réaction suite à la démission de Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire chargé des retraites. Il a démissionné après avoir oublié de déclarer plusieurs mandats et activités dans sa déclaration d'intérêt. C'est une démission qui était attendue ?
Attendu ou pas, je sais pas. Je trouve que c'est surtout beaucoup d'amateurisme de devoir en arriver à cette situation. Enfin, ça fait maintenant 2 ans que le gouvernement travaille sur cette réforme et on voit indépendamment du fond qu'elle est polluée par des à côté, que ce qui va être remis en cause maintenant par l'ensemble des oppositions, c'est l'objectivité du constat, l'objectivité du rapport. Et j'ai du mal à comprendre la démission, très bien, est-ce qu'il fait qu'il le fasse ou pas, c'est un épiphénomène. Est-ce que le fait de ne pas démissionner aurait mis une situation intenable? Mais le problème de fond, c'est comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Et je pense qu'il y a eu une impréparation lourde sur ce sujet.
Alors, vous êtes né en 1975.
Je suis juste du bon côté ou du mauvais côté de
alors,
la barrière,
voilà,
selon que comment on regarde la bouteille.
Vous serez concerné par cette réforme des retraites. Qu'est-ce que vous pensez de cette réforme, Est-ce qu'elle était nécessaire?
Je pense que le statu quo n'était pas tenable. Voilà. Après, est-ce qu'il fallait intégralement partir sur une logique à points plutôt que le système traditionnel? C'est un choix extrêmement lourd qui a été porté par le gouvernement, mais le système actuel, de toute façon, n'était pas tenable. Il y avait besoin d'avoir une quote-part d'évolution. Après, on a un certain nombre de points aujourd'hui qui font débat, notamment la question de l'âge pivot. Voilà. Moi, je pense que de toute façon, il faut en sortir. Je pense qu'il faut avancer sur ce sujet et qu'aujourd'hui, il y a quand même une attente globale des Français d'avancer, d'être courageux sur ces sujets-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une réforme qui se retrouve pollué par des à côté, par la situation du haut-commissaire chargé de la portée, par des pas de deux en permanence du gouvernement sur ce sujet, oui.
Le calendrier aussi vous étonne, tout ça annoncé avant Noël avec cette grève qui est arrivée, qui finalement laisse beaucoup de Français dans l'incertitude.
Le calendrier, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Est-ce qu'il fallait l'amener à ce rythme-là? Est-ce qu'il fallait passer une semaine entre les pré-annonces, les présentations auprès du Césaire, les annonces du ministre? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Je pense que il y a vraiment eu un problème de méthode sur le portage, que tout ça aurait pu se faire de manière beaucoup plus indolore, beaucoup plus souple. Moi, j'ai du mal à comprendre la position du gouvernement par rapport à la CFDT, qui a été poussée en n'étant pas écoutée à aller vers les syndicats plutôt durs et qui étaient très antagonisant par rapport à la réforme. Je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus souple, de beaucoup plus policé. Et comme souvent avec le gouvernement actuel, le problème n'est pas tant sur le fond que sur la forme ou le portage.
La forme, qu'est-ce que vous reprochez en fait à la forme exactement?
Un pas de deux en permanence, le fait que sur la question de cet âge pivot, on a bien vu les hésitations, le candidat Macron qui nous dit en 2007 qu'il ne touchera pas à l'âge, mais donc on met un âge pivot avec un système de bonus-malus permettant de savoir, de contourner ce qui a été une promesse de 2017. Ce malus qui a été extrêmement mal encadré, puisque même la porte-parole du gouvernement s'est trompée dessus, de savoir si effectivement... Sur la modalité d'application, je pense qu'il y a une certaine forme d'amateurisme dessus, d'impréparation. Je trouve extrêmement curieux qu'on arrive à porter un durcissement à ce stade sur l'approche des fêtes de Noël, où on se retrouve à avoir des Français qui sont pris en otage, en étant entre le marteau et l'enclume, entre des syndicats qui d'un côté veulent durcir, et où on a poussé des syndicats réformistes et modérés à aller vers un refus de la réforme, et puis de l'autre un gouvernement qui ne veut pas céder. Moi, j'en suis presque à me demander si, d'une certaine manière, le gouvernement ne cherche pas à avoir son match référence. C'est comme dans des fois, en termes de sport, on peut le voir sur telle ou telle équipe qui cherche à avoir un match référence. Et moi, je me demande dans quelle mesure on n'est pas aujourd'hui sur un gouvernement qui cherche à créer un point dur pour montrer qu'il peut gagner, qu'il peut imposer et qu'il peut faire preuve d'autorité sur ce sujet.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, demain aura lieu une nouvelle journée de mobilisation contre cette réforme. Le gouvernement a dit qu'il était prêt à négocier sur certains aspects, notamment ce fameux âge d'équilibre. À votre avis, un compromis est-il possible entre le gouvernement et les syndicats avant Noël ?
Je le souhaite. Alors, au moins par rapport aux syndicats réformistes ou modérés. Ce qui est dommage, c'est que ce compromis, il pouvait être recherché sur l'âge pivot. Enfin, c'est ce que demande la CFDT depuis des mois. C'est l'inverse de ce que le gouvernement a annoncé la semaine dernière. Donc, on aurait très bien pu éviter d'arriver à cette situation et d'avoir au gros cette crispation, ce durcissement, enfin, dans des conditions qui sont juste insupportables et insoutenable pour les Français dans la durée. Ce matin, en Ile-de-France, c'était plus de 600 km de bouchons. On est sur un pays qui, si ça doit durer, va se retrouver paralysé de manière extrêmement pénalisante pour tout le monde. Et moi, je pense qu'il faut arriver à en sortir. En sortir, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut juste dire travailler avec les partenaires sociaux et essayer, sur quelques points qui sont extrêmement clivants, de trouver les moyens d'en sortir.
Alors, sur les points clivants de cette réforme, il y a notamment les régimes spéciaux. On a vu qu'il y avait des exceptions possibles, notamment pour les policiers, les gendarmes. Est-ce que pour les cheminots, il pourrait y avoir une exception ? Est-ce que finalement, on pourrait maintenir ces régimes spéciaux ?
Ce qui montre déjà que le gouvernement a conscience que si demain la police ou la gendarmerie débraye, il n'y a plus d'État et qu'on est dans un schéma aujourd'hui où le gouvernement est en telle position de faiblesse que ne pas lâcher sur les régimes spéciaux de la police est absolument intenable pour lui. Alors après, sur la question des régimes spéciaux, le souci c'est est-ce qu'on va vers une clause du grand-père ou pas, et qu'est-ce qu'on impose aux gens par rapport à ceux qui rentrent aujourd'hui, à ceux qui sont rentrés hier ou à ceux qui sont rentrés il y a 10 ans. Pour moi, la seule question, c'est celle-là. Qu'on change les règles du jeu pour les personnes qui vont être amenées à rentrer, c'est une chose. Qu'on modifie les règles du jeu sur des gens qui sont rentrés dans un cadre donné avec des acquis, mais qui était justifié historiquement. Voilà, c'est vraiment...
Ce qu'on appelle une convention collective,
c'est casser une convention collective, casser un contrat initial qui a fait que ces personnes acceptent un certain nombre de désavantages, par ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui est pénalisant. Dire, pour la suite, ça ne se justifie pas, effectivement, c'est les éléments de langage classique du gouvernement. Entre un chauffeur de bus privé ou un chauffeur de bus RATP, quelle est la différence ? Peut-être aujourd'hui, si ce n'est que la personne qui est chauffeur depuis 15 ans, qui a signé un contrat dans ces conditions-là, dire du jour au lendemain, on casse ça, c'est compliqué.
Donc là, vous pouvez comprendre les cheminots, notamment ceux de la CGT qui font grève.
Mais moi, je ne suis pas favorable à la prise en otage des gens. Et aujourd'hui, ce qui est fait, c'est aussi une certaine forme de prise en otage. Après, de manière claire, quand on vous change les règles du jeu en cours de route, c'est quelque chose qui pose problème. Donc moi, je pense qu'on doit modifier pour l'avenir et essayer de protéger pour le passé.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, que vous disent les habitants de votre ville de Mennecy sur cette réforme et aussi sur cette grève ? Votre ville est forcément impactée puisque le RERD passe par Mennecy. Comment ça se passe ?
Si vous voulez, mes habitants, enfin moi, le ressenti que j'ai en tant qu'élu local, c'est que le principal souci des gens, c'est pas la réforme en tant que telle, une réforme des retraites. Tout le monde a conscience qu'on vit plus longtemps, qu'on rentre généralement sur le marché du travail plus tard, et que donc, même si on a des gains de productivité qui sont réels, il y a un moment où on ne peut pas avoir moins de la moitié de sa vie en étant productif par rapport à la période où on sera accompagné et financé par l'État, que ce soit pendant la période de ses études ou pendant la période de sa retraite. Ça, les gens le comprennent. Et il n'y a pas pour moi de point dur de refus de réforme, de refus de discussion. Aujourd'hui, le problème des gens, c'est quoi ? C'est d'un côté une certaine méfiance confiance parfois par rapport au gouvernement, qui a 30-35% d'opinion favorable ou de soutien, et de l'autre le souhait de ne pas être bloqué dans leur vie quotidienne. Et ce qui aujourd'hui est insupportable pour les gens, c'est d'être pris en otage, de ne plus pouvoir aller travailler. Alors quand on est sur des cadres, il y a encore parfois la possibilité d'avoir recours à un peu de télétravail, mais les professions les plus durement impactées, bah souvent c'est les professions les plus modestes, qui n'ont aucune possibilité d'avoir du télétravail, à qui les employeurs vont pas forcément autoriser des journées de congé ou des journées chômées et qui se retrouvent à vivre un enfer depuis plusieurs jours. Pour moi, le problème des gens aujourd'hui, c'est de pouvoir tout simplement travailler et de ne pas être pris dans un conflit entre un gouvernement qui peut-être a commis des maladresses en termes de négociation et certains syndicats qui refusent de discuter.
En tant que maire, comment pouvez-vous accompagner justement ces habitants qui ont de grandes difficultés à se déplacer ? Vous pouvez créer des espaces de coworking, des choses comme ça ?
Oui, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. Alors après, les espaces de coworking, ça veut dire aussi tirer de la fibre, tirer du très haut débit. C'est ce qu'on finance en Essonne avec la région et le département pour que toute cette partie sud du département dont je suis élu puisse être fibrée, puisse offrir ça. On va avoir un espace de coworking qui ouvrira fin janvier dans ma commune. Ça fait partie des évolutions des modes de vie. Après, sur des périodes de pic de grève, certaines communes mettent des transports alternatifs en payant des bus. Le problème, c'est que les bus, ils arrivent pas non plus à Paris où ils vous mettent à 3h, 3h30 pour y arriver. Donc voilà, nous on essaye de jouer surtout sur le service aux habitants, d'être extrêmement souple par rapport aux déposes sur les garderies périscolaires, d'essayer d'accompagner au maximum les gens sur ce volet-là.
Alors c'est la présidente du conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse, qui est en charge des transports dans la région. Que fait le conseil régional pour venir en aide aux franciliens qui sont durement touchés par cette grève ?
Deux choses. Déjà, c'est de mobiliser des bus privés en renfort pour pouvoir venir prendre en charge des lignes qui ne sont plus assurées. Donc d'essayer, tout en respectant le droit de grève des salariés de la RATP, eh bien de maintenir malgré tout un service. Et puis la deuxième chose, c'est d'essayer de favoriser le covoiturage de manière massive, avec des primes qui sont apportées, avec le développement des sites de covoiturage, des primes pour les personnes qui acceptent de prendre en charge des covoiturés, et puis de faire que ce covoiturage puisse se faire à coût zéro pour les personnes qui vont aller dessus. C'est d'ailleurs un vrai sujet en Île-de-France que de développer le covoiturage. Aujourd'hui, on est sur les transports en commun qui sont à saturation. Paradoxalement, la route n'est pas saturée. Elle l'est en nombre de véhicules, mais pas en nombre de passagers. On est à 1,1 passagers aux heures de pointe par véhicule. On sait qu'à un 6 ou un 7, il n'y a plus de problème de bouchon. Donc un des sujets pour nous, au niveau de la région majeure, c'est d'inciter au covoiturage. Et souvent, ces périodes de grève permettent de favoriser le mouvement. Après, comme souvent dans ce pays, je trouve qu'on ne va pas suffisamment loin, on n'est pas suffisamment incitatif. On devrait faire ce qui a été fait dans beaucoup d'autres pays, c'est réserver des voies de circulation au covoiturage. Aujourd'hui, il y a des voies réservées pour des véhicules de service public, mais il n'y a pas l'incitation à un changement de comportement pour aller vers ce covoiturage. Et l'incitation financière de pouvoir gagner 100, 120 euros de plus par mois, elle ne suffira pas.
Quelle autre leçon devrait-on tirer de cette grève pour l'avenir ? Vous nous parlez de ces voies de circulation pour le covoiturage. Est-ce qu'il faudrait par exemple automatiser d'autres lignes comme les lignes 1 et 14 qui sont les seules à fonctionner normalement aujourd'hui ? Alors, c'est une façon de contourner la grève qui peut choquer certaines personnes.
Oui, après, le souci pour nous n'est pas tant d'automatiser que de renouveler le matériel, parce qu'il faut savoir qu'en Île-de-France, on a un déficit d'investissement sur le matériel roulant et sur les infrastructures qui remonte pour les infrastructures à plus d'un siècle et pour le matériel roulant à quelques décennies, où on est sur des commandes extrêmement importantes de matériel, comme on n'a jamais fait depuis 5 ans. Il y a un effort financier d'Île-de-France Mobilité soutenu par la région Île-de-France là-dessus qui est extrêmement fort, mais la réalité, elle est que si on n'arrive pas à mettre en place les outils d'un dialogue social raisonné, on peut mettre en place tous les systèmes automatiques qu'on veut. Il y a toujours un moment où ça buggera, parce qu'il n'y aura pas l'agent de maintenance qui viendra, où il y aura un blocage au dépôt des véhicules. Donc, je crois que le problème de fond, au-delà de ça, c'est d'être dans un pays qui est enfin une culture de dialogue social et non pas une culture de conflit, où on voit quand même aujourd'hui un gouvernement qui cherche à marquer son empreinte, et puis de l'autre, des syndicats qui n'ont pas eu de victoire contre un gouvernement depuis 95. Quand on regarde bien la culture des conflits ou l'histoire des conflits en France depuis les grandes grèves contre les réformes de Juppé de l'hiver 95-96, il n'y a pas eu de retrait de mesures sur des questions liées aux retraites. Les réformes Fillon sous Chirac sont passées, les réformes sous Sarko sont passées, même les réformes sous François Hollande de Myriam El Khomri sont passées. Donc à chaque fois, il y a eu un rapport de force qui a essayé d'être mis en place par les centrales syndicales et un gouvernement qui est passé en force et qui a passé ses réformes. Et je pense que de part et d'autre, on est un peu sur un dialogue de sourds avec cette culture française de la recherche du bras de fer et du conflit plutôt que du dialogue social en amont, et qu'on le paye aujourd'hui, et qu'on le paye avec des Français en général et des Franciliens en particulier, parce que l'Île-de-France est particulièrement impactée, qui sont pris en otage.
Le modèle pour vous du dialogue social, c'est ce qui se passe en Allemagne par exemple?
Ce qui se passe en Allemagne, ce qu'on retrouve aussi de plus en plus dans certaines grandes entreprises qui, au sein de l'entreprise, dans certaines collectivités, ce qui a été fait sur la région Île-de-France a aussi été, je considère, un modèle du genre, ce qui a été porté par Béatrice de la Valette, pour essayer d'arrondir, pour essayer de trouver les moyens de se parler, pour essayer de trouver les moyens de créer des acceptabilités sur la région Île-de-France. Et c'est pas quelque chose de facile, on est en train de déménager. C'est pratiquement 3000 salariés qui ont été déménagés, pour certains avec des allongements de temps de transport, avec des changements de mode de travail, parce qu'on est passé sur de l'open space, sur de bureaux partagés. Donc il y a aussi une question d'acceptabilité dessus. Il y a eu un travail en amont qui a été mené. Et à partir du moment où les personnes acceptent de s'écouter et de travailler dans une logique de dire on a un point d'arrivée, après le point d'arrivée, on peut peut-être en discuter un petit peu et voir quelles sont les conditions pour y arriver ensemble, on peut passer les choses.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, vous êtes vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, chargé de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement. Quelles sont les prérogatives de la région en matière d'environnement?
Alors, elles sont extrêmement larges, quoique dépendant assez rarement du champ de la loi. Les compétences régaliennes ou officielles ou de base de la région, selon la façon dont on souhaite en parler, ça va être les transports, ça va être le développement économique, ça va être les lycées. Puis ensuite, ça va être les secteurs dans le cadre desquels la région souhaite s'impliquer ou a, dans un certain nombre de cas, de par la loi, un rôle de, on appelle ça le chef de fila, c'est un terme absolument monstrueux, mais qui suppose que on doive donner un exemple, être chef de file par rapport aux collectivités infrarégionales. Donc on va avoir une première chose, c'est l'aménagement du territoire. Tout l'aménagement du territoire en Île-de-France est conditionné par ce qu'on appelle le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France, qui autorise des zones de construction, qui en interdit d'autres, qui impose à certains endroits de construire ou de densifier pour en préserver d'autres. Donc déjà, c'est une logique d'équilibre en termes d'aménagement. Et puis après, la région, en termes d'environnement, on va avoir des rôles extrêmement importants en matière énergétique, en matière climatique, en matière de lutte contre la pollution de l'air, en matière de renaturation, en matière d'espaces verts. On développe toute une série de politiques pour aller recréer des espaces verts. On souhaite porter la création de 500 hectares d'espaces verts nouveaux sur cette mandature, nouveaux ouverts au public. L'objectif étant que chaque Francilien puisse avoir, au terme de cette mandature, un espace vert accessible à moins d'un quart d'heure à pied de chez lui, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en zone dense, par exemple.
Comment on crée un espace vert public où on trouve les terrains? Ce sont des espaces qui existent déjà. Vous les créez toutes pièces?
Il y a autant de cas de figure que d'espaces. On a deux projets un petit peu emblématiques et puis ensuite une multitude de petits projets. Deux projets emblématiques, c'est la forêt de Pierre-les-Bessancourt, qu'on finance. Alors là, on est en dehors de cet objectif de 500 hectares. C'est 1100 hectares, c'est 1 million d'arbres qui vont être plantés dans le Val d'Oise sur des terrains pollués par les épandages des réseaux d'assainissement parisiens à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc c'est une renaturation de ces espaces plus d'un million d'arbres plantés. C'est en secteur très dense, sur le secteur de Noisy-le-Grand, à cheval entre le 93, le 77 et le 94, 300 hectares d'espaces verts qui étaient privés, fermés, derrière des murs que nous venons de racheter pour ouvrir au public. C'est le Bois Saint-Martin, 300 hectares en secteur extrêmement dense. Et puis après, eh bien, souvent, on va venir financer les communes ou les agglomérations, soit pour qu'elles puissent remettre, réaménager, réouvrir des espaces verts existants, soit tout simplement pour désimperméabiliser des sols, replanter et créer des espaces accessibles.
L'invité de Pluriel est Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy dans l'Essonne, vice-président du conseil régional d'Île-de-France, chargé de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement. On se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy dans l'Essonne, vice-président du conseil régional d'Île-de-France. Vous êtes chargé de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement. Alors, on a tous en mémoire l'épisode de canicule de l'été dernier. Que peut faire la région pour freiner le réchauffement climatique ?
La région, elle fait énormément, elle va continuer à faire et on va continuer à amplifier notre effort. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est aujourd'hui sur une logique d'investissement en faveur de l'environnement au sens large de 10 milliards sur 5 ans. C'est-à-dire, c'est pratiquement 1 euro sur 2 de l'investissement francilien qui, de près ou de loin, est consacré à l'environnement. Sur le budget 2020, on est un tout petit peu moins d'un sur 2. Et l'objectif, c'est qu'on passe le cap des 2 milliards pour être à 1 euro, à un peu plus d'1 euro sur 2. Bah, tout simplement, on va aller vers des transports moins émetteurs en gaz à effet de serre. Parce que lutter contre le réchauffement climatique, c'est changer des rames, on en parlait tout à l'heure, de RER ou de métro, pour avoir des rames qui soient moins énergivores. C'est aller sur des transports de bus intégralement propres. On porte des renouvellements de flotte de bus. Un premier appel d'offres de pratiquement 1000 bus cette année a été lancé pour aller vers des transports propre sur la petite couronne à 2024 et sur l'ensemble de l'Île-de-France à 2030. Aller également lutter contre les effets de production de gaz à effet de serre par les véhicules. Donc on met en place des primes. Cette année, c'est 10 millions qui vont être dépensés, 2 millions l'année précédente, donc on a multiplié par 5 pour permettre aux entreprises franciliennes, TPE, PME, de changer leurs véhicules pour des véhicules propres. C'est aussi, on parlait du plan vert, c'est aller recréer des îlots de fraîcheur, c'est aller casser les phénomènes d'îlots de chaleur, donc recréer des espaces verts, c'est aller travailler sur des trames vertes et bleues, aller travailler sur de la renaturation. C'est tous ces sujets qu'on porte qui permettent de lutter contre ces phénomènes-là. Après, il faut avoir conscience que ce qui est fait sur la région Île-de-France, on peut le décliner partout ailleurs, mais c'est pas la région Île-de-France toute seule qui fera en sorte que malheureusement on atteigne le seuil des 1,5 degré qui lui-même est illusoire aujourd'hui.
Et justement, la COP25 s'est achevée sur un bilan très mitigé dans cette lutte contre le changement climatique. On s'aperçoit que les États ne sont pas toujours vertueux. Les régions, une région comme la région Île-de-France, peut être un exemple au niveau européen ?
Moi, je crois à la vertu des collectivités territoriales, beaucoup plus qu'aux États. Je pense que depuis des années, ça a été vrai en France, mais c'est vrai partout, les États sont devenus des énormes paquebots sur lesquels il n'y a plus de capacité de souplesse, il y a des forces d'inertie absolument colossales, et que ce qui ne peut plus être porté par les États peut être porté à l'échelon local. Alors, les régions ont des surfaces qui permettent d'avoir des politiques générales, des politiques stratégiques, des plans généraux et de les impulser, mais je pense que l'échelon communal ou intercommunal est un échelon extrêmement pertinent et que sur ces questions d'environnement, sur ces questions de développement durable, c'est un échelon où il y a encore un lien avec le citoyen, c'est un échelon sur lequel on peut travailler, on peut réussir à faire ce qui n'est plus faisable au niveau étatique. Alors après, cet échelon communal, il a besoin d'être aidé et c'est le rôle des régions. Mais on a aujourd'hui, en tout cas sur l'expérience que je commence à avoir, on a une souplesse d'action beaucoup plus forte sur des échelons proches du terrain que sur des très grands échelons. Et souvent, on est aussi sur des questions beaucoup plus pratiques, sur la mise en œuvre ou pas, sur les conditions de mise en œuvre réelles ou pas.
Qu'est-ce que vous pensez de Greta Thunberg, qui vient d'être considérée comme la femme de l'année par le magazine Time? Elle a permis à de nombreux Français de prendre conscience cette urgence climatique, même si elle est aussi très critiquée.
C'est une question perverse, parce que quoi que je dise, je vais me brouiller avec la moitié de l'humanité entre les pros et les anti.
Non. Vous êtes centriste, vous pouvez peut-être réconcilier tout le monde.
Voilà, c'est le en même temps. Voilà. Non, mais c'est elle a eu, je crois, un mérite, c'est de contribuer à une prise de conscience forte de la part de l'opinion et en particulier des jeunes. Alors cette prise de conscience, on mesure quand même depuis 5 ou 6 ans la différence ou l'évolution. Moi, je vois sur mes réunions dans ma commune, sur des réunions d'appartements, aujourd'hui, on me parle de traitement de déchets, de valorisation des déchets. C'est quelque chose, 6 ans en arrière, jamais on ne m'en aurait parlé. Donc il y a une attente de la... une appétence de la part des gens sur ce sujet-là. Et je pense que Greta Thunberg a contribué, a participé à cette phase-là. Après, le risque ou l'image un peu plus négative, c'est d'être sur des logiques extrêmement radicales, extrêmement punitives, parfois tristes et souvent extrêmement médiatisées. Voilà.
L'écologie est encore perçue comme une contrainte, l'écologie punitive, vous avez le sentiment que ça peut être contre-productif ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Pour moi, on a fait de l'environnement ce qu'on a fait de l'Union européenne. Si on a fait une contrainte et quelque chose qui se fait au profit des métropoles ou des classes sociales aisées, au détriment des provinces et des classes populaires, alors que c'est l'inverse. Les premières victimes des problématiques environnementales, c'est les plus pauvres. C'est vrai au niveau mondial. On voit que les pays les plus impactés, et bien souvent, c'est les pays les plus pauvres qui vont être les premiers à souffrir des dérèglements climatiques. On le voit également, et bien tout simplement en France, hein, les personnes, quand on parle d'alimentation, qui vont pouvoir acheter du bio, acheter du qualitatif, ou ceux qui vont parfois moins bien s'alimenter, on voit les différences de classe qui existent. Mais on a eu une telle logique de ne travailler, de ne pas avoir de carottes et de bâtons, mais d'avoir qu'un bâton, d'être dans une logique d'incantation, qu'on a réussi à créer ce clivage-là. Enfin, ça a été la question de la façon dont on a vendu la taxe carbone, qui a été ressentie par énormément de gens comme un moyen de taper sur des couches populaires qui n'avaient pas d'autre moyen que leur voiture pour aller travailler.
Est-ce qu'au Conseil régional d'Île-de-France, vous travaillez en bonne intelligence avec Europe Écologie Les Verts? Car vous êtes chargé de l'écologie, mais vous venez plutôt de la droite.
Si vous voulez, on a Europe Écologie Les Verts qui est de plus en plus mélenchonienne. Faut dire les choses telles qu'elles est. Aujourd'hui, on a de très nombreux élus EELV qui sont sur une ligne qui est beaucoup plus proche de la France insoumise que celle d'Europe Écologie Les Verts d'il y a quelques années. L'ancien président du groupe EELV à la région, quand ça s'appelait encore tout simplement Les Verts, aujourd'hui préside Air Paris, et on a été attaqué par le groupe EELV sur une subvention Air Paris au motif qu'on n'était pas suffisamment exigeant. Enfin, il y a un durcissement idéologique de la part de EELV qui, à mon avis, n'apporte strictement rien au débat et qui fait qu'on est sur un parti aujourd'hui qui est beaucoup plus dans le dogmatisme et le clivage que dans la recherche de consensus et de monde réel.
Mais finalement, est-ce que ces écologistes radicaux ne sont pas là pour vous aiguillonner? Vous me dites que vos administrés vous parlent d'ordures ménagères, de recyclage. Finalement, même pour vous, j'imagine que vous avez changé sur la question de l'écologie ces dernières années. Est-ce qu'il ne faut pas aussi un peu de radicalité des Greta Thunberg pour nous inciter tous à prendre conscience de ces urgences?
Il y a deux choses différentes. Il y a les lobbies, les associations et les acteurs de la société civile. Et là, leur rôle, effectivement, c'est d'être des poils à gratter. C'est d'être de pousser les pouvoirs publics. C'est d'être de demander le maximum, de rêver l'inaccessible pour pousser les pouvoirs publics à faire. Et puis ensuite, il y a les pouvoirs publics eux-mêmes, il y a les élus, et eux, leur job, c'est d'être responsables. Et des élus qui sont dans des logiques idéologique, radical. Vous savez, la radicalité en politique, elle arrive rarement à des choses positives.
Alors, vous êtes candidat à votre succession à la mairie de Mennecy. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre ville pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette commune de l'Essonne, une ville située entre Évry et Corbeil?
Alors, je n'ai pas encore exclu de ne pas me représenter, mais je ne suis pas encore officiellement candidat. Ceci étant, ma ville, commune que j'adore, moi, je suis passionné par ma ville. Le plus beau des mandats, je pense, c'est celui de maire. Moi, c'est quelque chose pour lequel je vis en permanence, chaque heure, chaque minute. C'est une petite commune de 14-15 000 habitants qui est à la frontière de l'Île-de-France rurale et urbanisée, qui est une ville nouvelle. C'était 1 400 habitants avant la Première Guerre mondiale, 2 000 habitants en 70, et entre 70 et 83, on est passé de 2 à 9 000 habitants. C'était une commune nouvelle résidentielle qui s'est construite dans le prolongement d'Évry et Corbeil, qui étaient les secteurs industriels et de développement économique. C'est une commune qui a une caractéristique urbanistique forte, c'est d'avoir un quartier entièrement de maisons américaines, 1 700 pavillons, c'est un peu, ça ressemble un petit peu à Desperate Housewives, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Wisteria Lane. On est situé en bordure des marais de l'Essonne, avec plus de la moitié de la commune qui est inconstructible parce que c'est les secteurs de marais, c'est un énorme parc de 110 hectares boisés, c'est énormément d'espaces verts, et en même temps on est à la limite de la zone d'urbanisation du Sdrif, c'est-à-dire qu'au-delà de Mency, eh bien on est dans les champs, on est dans la plaine de Beauce, on est dans le parc naturel régional du Gâtinais. Alors que à 5 ou 6 kilomètres au nord, c'est Évry, c'est Corbeil, c'est Grigny, et c'est ces quartiers d'habitat extrêmement denses et qui souvent ont connu des paupérisations fortes. On est une commune un petit peu d'équilibre entre ces deux îles de France.
C'est une ville où il fait bon vivre ?
Je le pense, mais en étant le maire, je suis absolument pas objectif sur ce sujet.
Alors, quel bilan faites-vous de ce mandat à la tête de Mency ?
Ça a été un mandat extrêmement difficile parce que on a subi ce qui est pas un vain mot ou une incantation, les baisses de dotation de l'État. Sur une commune comme la mienne, je suis passé sur ce mandat de 13 200 à 14 600 habitants. Nous avions 15% de logements sociaux, on est à 22,5%, c'est-à-dire qu'on a fait l'effort de laisser se faire du logement social pour répondre aux objectifs de la loi et puis aussi répondre aux besoins des habitants qui n'arrivent pas à se loger, dont les enfants n'arrivent pas à se loger sur le secteur. Et bien qu'augmentant notre population de pratiquement 10%, nos dotations sont passées d'un peu plus de 2 millions à un peu moins de 700 000 euros. Donc quand vous avez 1,3 million de recettes en moins annuellement avec une population qui augmente, ça veut dire que vous gérez ni plus ni moins que des plans sociaux. Moi, sur ce mandat, j'ai dû licencier 30 agents sur 330, pratiquement 10% des effectifs. Donc ça a été un mandat extrêmement compliqué où l'État, sous la mandature de François Hollande et les gouvernements successifs qu'il s'est donné, a mis les collectivités dans des situations d'extrême tension. Pour moi, c'est un mandat où on a construit. Malgré cela, on a réussi à trouver les équilibres pour avoir un parc d'école quasi intégralement reconstruit, pour travailler sur nos équipements culturels et pour accompagner un développement harmonieux de la ville.
Concrètement, la question de l'éducation est importante pour un maire. Vous gérez les écoles primaires et maternelles. Qu'est-ce que vous faites pour permettre une meilleure égalité des chances pour notamment les enfants qui n'ont pas toujours des parents qui peuvent les aider pour leurs devoirs?
Alors là-dessus, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Déjà, c'est d'avoir des bâtiments qui soient corrects, qui ne soient pas indignes et qui permettent aux équipes enseignantes de s'y retrouver et de vouloir rester. On a 9 écoles sur Mency, il nous en reste une à rénover. En l'espace de 10 ans, on aura reconstruit ou rénové toutes nos écoles déjà. Donc c'est amener un patrimoine bâti qui soit fort. On avait une maison des jeunes qui était ancienne. On en a 2 aujourd'hui qui sont neuves. Donc déjà, c'est de travailler sur les infrastructures. Ensuite, c'est de travailler sur les tarifications. On a pris le parti d'être sur des quotients familiaux. Aujourd'hui, quand vous êtes au premier quotient familiaux, vous êtes à moins de 1 euro pour la cantine. C'est le fait de mettre en place l'étude pour tous le soir. C'est-à-dire que le soir, en élémentaire, nous, on n'a pas de garderie, on a de l'étude. C'est-à-dire qu'on a un accompagnement qui est fait par les enseignants, généralement, qui, sur la première heure suivant les cours, eh bien, vont accompagner les enfants pour pouvoir travailler et préparer les choses. Et puis, il y a quelque chose que je souhaite porter à l'avenir, si d'aventure je ne renonce pas à me représenter au mois de mars, c'est d'aller vers un chèque sport culture universel. Ce que je souhaiterais porter, c'est que la commune puisse permettre à chaque enfant de la ville, en démarrant par les quotients familiaux les plus faibles sur le début du mandat, mais à terme à chaque enfant, parce que moi je ne veux pas faire de discrimination entre des enfants entre guillemets de riches, mais qui payent des impôts, puis des enfants de pauvres de l'autre côté, mais je souhaite que chaque enfant puisse bénéficier gratuitement, grâce à la ville, de l'inscription dans un club sportif ou au conservatoire. Je veux pas avoir un enfant de Mennecy qui, parce que sa maman n'a pas d'argent et mère célibataire, peut pas s'inscrire au foot ou au basket. Voilà.
Il y a un conseil municipal des enfants à Mennecy?
Oui, on l'a créé en 2011 ou 12 maintenant. C'est une structure qui vit bien. On a une vingtaine de jeunes conseillers municipaux. Ils ont une vraie expérience grandeur nature de démocratie, de civisme. Donc déjà parce qu'on les fait se réunir, travailler en commission, se rendre compte qu'entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, des fois il y a des écarts, que l'intérêt général, c'est la chose la plus dure à trouver dans la vie. L'intérêt général, c'est pas la somme des intérêts particuliers. Donc, où est-ce qu'on le trouve? Que faut aussi arriver à convaincre pour porter un projet, qu'ils arrivent eux-mêmes à se persuader les uns les autres que le projet de l'un peut emporter la décision. Et puis, au-delà de ça, pendant 2 ans, on leur organise tout un parcours de visite du Sénat, de l'Assemblée nationale, de lieux de mémoire. On va les emmène raviver la flamme du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe. On les emmène à Colombey, on les emmène au musée de la Grande Guerre à Meaux. On leur fait visiter les sites de production des cantines. Enfin, voilà, il y a un véritable travail pédagogique qui est mené. Alors, ça prend beaucoup de temps. On est une petite ville, mais c'est des choses qui peuvent être démultipliées.
Il y a des projets qui ont été portés par ces enfants au conseil municipal des enfants, qui ont été concrétisés ?
Tous les ans, on s'efforce d'avoir au moins un ou deux projets qui puissent être concrétisés. Alors, ça peut être tout simplement avoir des personnages sur le bord des routes incitant les automobilistes à rouler moins vite. Ça a été un skatepark qui a été inauguré au mois de juillet dernier. Alors ça, c'est une demande pendant 5 ou 6 ans où ils l'ont porté. Enfin, entre le moment où ça a été demandé, où on a pu trouver des terrains et trouver des financements. Voilà, mais tous les ans, oui.
Alors, tous les maires sont confrontés à une difficulté, c'est les élèves handicapés qui ont beaucoup de mal parfois à intégrer une classe parce qu'on manque d'AVS. Comment vous réagissez à ce type de situation humaine très difficile?
C'est le problème du suivi du handicap dans ce pays. C'est avec d'une part des familles qui se retrouvent parfois non prises en charge, non accompagnées par l'État, puisque les AVS dépendent de l'État et non pas des communes, des départements ou des régions. Est-ce qu'on a le même problème dans les collèges ou les lycées? Et puis d'autre part, c'est aussi le problème du statut pour ces personnels-là, qui souvent sont embauchés de manière contractuelle, souvent sur des temps partiels, pas toujours conservés au terme de leur contrat et où on
souvent
a
pas très bien payé
aussi. Enfin, on parle souvent du drame de l'hôpital, mais enfin sur les AVS, on n'est pas forcément beaucoup mieux. Nous, on essaye de traiter à chaque fois qu'un cas particulier nous est signalé, de le travailler avec l'inspection de l'éducation nationale, avec le DAZN pour essayer d'accompagner, de trouver des solutions.
Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on est maire d'une ville comme Mennecy? Et j'imagine qu'il y a beaucoup de moments où vous êtes heureux dans cette ville. Il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres.
Quand vous êtes maire, vous êtes avec les gens dans leur vie quotidienne, dans leur bonheur, dans leur malheur, dans les accidents de vie, dans les décès, dans la maladie, dans tout ce qui peut arriver de dur. Donc ça fait partie des choses où vous faut aussi absorber, puis il faut aussi garder une capacité d'empathie. Mais c'est un mandat qui est passionnant parce que vous vivez les gens. Et si vous ne vivez pas votre ville, si vous ne vivez pas les gens, vous ne vous pouvez pas le faire correctement. Après, une des choses les plus dures, c'est souvent les gens vous prêtent beaucoup plus de pouvoir que ce que vous n'avez réellement. Parce que vous êtes l'élu de proximité, on pense que vous pouvez, en bien ou en mal d'ailleurs, faire énormément de choses.
Sur et la question des logements sociaux, par exemple.
Sur les logements, sur le travail, sur des non-prises en charge d'aide de la part de retraite qui, pour X ou Y raison, bug à un moment ou un autre, pour des questions de carte scolaire, pour des questions de place de crèche, et entre ce que vous pouvez. Et souvent, ça va être tout simplement d'avoir une capacité d'écoute, d'essayer d'accompagner, d'essayer d'écouter, d'essayer d'avoir un peu d'humanité dans un monde qu'on est complètement dépourvu.
Et ça, vous avez quand même la tentation de continuer ce mandat ?
C'est le seul rapport, c'est exactement comme un fumeur qui décide d'arrêter. C'est quel est le rapport entre le soulagement ou le bonheur que vous procure le fait d'allumer une cigarette ou la peur quand vous toussez le matin. Et aujourd'hui, j'éprouve beaucoup plus de plaisir que de lassitude.
Merci Jean-Philippe Dugoin-Clément. Je rappelle que vous êtes maire UDI de Mennecy dans l'Essonne et vice-président du Conseil régional d'Île-de-France chargé de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.